VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du mercredi 12 février 2020. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Togo, le principal parti d'opposition dénonce l'interdiction de plusieurs des meetings de Jean-Pierre Fabre, son candidat à la présidentielle du 22 février.
En République centrafricaine, l'ensemble des partis politiques d'opposition lance à Bangui une plateforme commune en vue de la présidentielle de décembre 2020.
L'OMS est encouragée, mais reste prudente quant à l'évolution d'Ebola en République démocratique du Congo.
Le Conseil de sécurité de l'ONU est appelé à voter aujourd'hui une résolution pour soutenir un cessez-le-feu en Libye.
Le sénateur Bernie Sanders est le vainqueur des primaires démocrates du New Hampshire devant le maire Pete Buttigieg et la sénatrice Amy Klobuchar.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Togo, le principal parti d'opposition, l'Alliance nationale pour le changement, a dénoncé hier l'interdiction ou la perturbation dans le nord du pays de plusieurs meetings de Jean-Pierre Fabre, son candidat à la présidentielle du 22 février. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
5 meetings électoraux ont été interdits et perturbés depuis l'ouverture de la campagne électorale le 6 février, ont rapporté les responsables du parti. Dès le lancement de la campagne électorale, Jean-Pierre Fabre, tête de file de l'opposition togolaise et candidat de l'ANC en tournée dans la région des savanes, de la Kara et centrale, ne cesse de rencontrer les pires difficultés pour battre campagne comme la loi l'autorise, a indiqué un communiqué publié par sa formation politique. Vendredi, le meeting de Sinkassé a été interdit, les militants de l'ANC ont dû se résoudre à accueillir M. Fabre sous un arbre au bord de la route à l'entrée de la ville. Le même jour, le meeting de Tondjouaré a été interdit. Le meeting prévu samedi à Gando est également interdit par le préfet. Lundi, des personnes se réclamant du parti au pouvoir empêchent la tenue à Bassar du meeting de campagne de l'ANC, précise le communiqué qui dénonce des intimidations des militants sous le regard indifférent des forces de sécurité et de la Commission électorale nationale indépendante CENI. La campagne prendra fin le 20 février. Environ 10 000 gendarmes et policiers ont été déployés. 7 candidats sont en lice pour la présidentielle, notamment le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre, l'ancien Premier ministre Kodjo Agbeyome et le président fort Yassine Bey qui briguera un quatrième mandat.
En République centrafricaine, les représentants de l'ensemble des partis politiques d'opposition ont lancé hier à Bangui une plateforme commune en prélude à la présidentielle de décembre 2020. Parmi les signataires de la charte de la coalition de l'opposition démocratique figure notamment le parti de l'ex-président François Bozizé, renversé en 2013 par une coalition de groupes armés. La chute de M. Bozizé a été le point de départ d'une nouvelle guerre civile en RCA. L'ancien président dispose toujours d'une solide assise électorale et n'a pas exclu de se présenter à l'élection de 2020.
L'Organisation mondiale de la santé s'est déclarée hier encouragée par l'évolution de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, avec seulement 3 cas la semaine dernière et aucun au cours des 3 derniers jours. Mais l'OMS reste prudente face au risque d'une reprise de la maladie.
Bien que l'attention mondiale soit retenue par le nouveau coronavirus en Chine, nous ne devons pas oublier Ebola, a déclaré à la presse le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Un comité d'urgence composé d'experts de l'OMS doit se réunir mercredi à Genève pour dire si l'épidémie d'Ebola constitue toujours une urgence sanitaire mondiale. M. Tedros doit se rendre en RDC jeudi pour rencontrer le président Félix Tshisekedi et parler notamment du renforcement du système de santé du pays.
Le Conseil de sécurité de l'ONU est appelé à se prononcer cet après-midi sur une résolution soutenant un cessez-le-feu en Libye, une résolution qui serait le premier texte contraignant adopté depuis le déclenchement du conflit début avril. Bagassikoura.
Un vote a été demandé par le Royaume-Uni, rédacteur du texte qui a fait l'objet de discussions depuis plus de 3 semaines, indique un diplomate. La position de la Russie, qui avait bloqué le 5 février le projet de résolution, reste inconnue. Le texte affirme la nécessité d'un cessez-le-feu durable en Libye à la première occasion et sans précondition. Dans ce projet soumis au vote ne figure plus la mention de la préoccupation du Conseil de sécurité devant l'implication croissante de mercenaires en Libye. Cette mention avait été à l'origine du blocage russe la semaine dernière, Moscou réclamant de remplacer le mot mercenaire par combattant terroriste étranger. Au début des négociations, les États-Unis avaient réclamé que les mercenaires russes du groupe Wagner soient clairement identifiés dans le texte, selon un diplomate ayant demandé l'anonymat. La Russie est accusée depuis plusieurs mois d'avoir soutenu l'acheminement en Libye de plusieurs milliers de mercenaires de ce groupe privé réputé proche de la présidence russe au profit du maréchal Khalifa Haftar qui cherche depuis début avril à s'emparer militairement de Tripoli.
La justice portugaise a ordonné le gel des comptes bancaires au Portugal de la milliardaire angolaise Isabel dos Santos, fils de l'ex-président José Eduardo dos Santos. Elle est accusée de détournement de fonds publics par la justice de son pays. Abdourahman Dia.
Selon le parquet portugais, le gel des comptes d'Isabel dos Santos entre dans le cadre de la demande de coopération judiciaire internationale adressée par les autorités angolaises. Elles accusent la milliardaire dirigeante de plusieurs sociétés de fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent lorsqu'elle était à la tête du géant pétrolier Sonangol sous la présidence de son père. Après le gel de ses avoirs dans son pays, le procureur général de la République angolaise, Helder Peter Gross, s'était rendu fin janvier à Lisbonne pour solliciter l'aide du ministère public portugais. La justice angolaise avait mis la pression sur Lisbonne en précisant qu'elle l'a soupçonnée d'avoir investi au Portugal des fonds détournés illégalement. Isabel dos Santos avait pris des participations dans plusieurs grandes sociétés portugaises. Depuis l'éclatement du scandale, elle a commencé à vendre ses parts. Elle rejette les accusations portées à son encontre, affirmant qu'elle est la victime d'une chasse aux sorcières.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Ici aux États-Unis, le sénateur socialiste Bernie Sanders a remporté mardi la primaire démocrate du New Hampshire, suivie de près par les modérés Pete Buttigieg et Amy Klobuchar, désormais installés dans le groupe des candidats susceptibles de défier le président républicain Donald Trump en novembre, selon les grandes chaînes américaines. Des détails avec Nani Talani.
C'est le début de la fin pour Donald Trump, a lancé le sénateur indépendant âgé de 78 ans à ses partisans dans le New Hampshire. Il dévance l'ex-maire Pete Buttigieg puis la sénatrice modérée du Minnesota, Amy Klobuchar, selon les comptabilisations des chaînes ABC, CBS et NBC. Longtemps favori, l'ancien vice-président Joe Biden a essuyé un cuisant revers en arrivant que loin derrière, à la cinquième place, derrière la sénatrice progressiste Elizabeth Warren. Joe Biden, dont la candidature semble désormais en péril, a quitté hier le New Hampshire avant les résultats pour se rendre en Caroline du Sud. L'ancien vice-président de Barack Obama y est donné très largement favori car il bénéficie de fort soutien dans la population noire.
Ici à Washington, le président Donald Trump a démenti être intervenu auprès du ministère de la Justice pour adoucir la peine de prison recommandée par les procureurs contre son ami de longue date, Roger Stone. Ce dernier a été reconnu coupable d'avoir menti au Congrès dans le cadre de l'enquête Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Les procureurs avaient requis la veille une peine de 7 à 9 ans, mais le ministère de la Justice est revenu là-dessus, estimant hier que c'était excessif et injustifié. Avant ce revirement, le président Trump avait dans un tweet dénoncé la même recommandation de peine, la qualifiant de situation très injuste et d'erreur judiciaire. Les quatre procureurs qui instruisaient l'affaire ont tous annoncé qu'ils s'en retiraient.
Le nouveau coronavirus a provoqué la mort de 1113 personnes en Chine continentale, hors Hong Kong et Macao. Les autorités nationales de la santé rapportant ce mercredi 97 nouveaux décès. Dans son bulletin quotidien, la Commission nationale de la santé a également fait état de 2015 nouveaux cas de contamination, une baisse par rapport au jour précédent. 44 653 personnes contaminées ont désormais été répertoriées en Chine continentale.
Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus a souligné hier, lors d'une conférence à Genève, que même si plus de 99% des cas étaient localisés en Chine, le virus représente une très grave menace pour le reste du monde. Il a également appelé les pays concernés à partager leurs informations afin de développer la recherche sur la maladie.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Minute Éco, Nathalie Barge.
Lors d'un forum qui se tient actuellement à Dakar, le directeur général du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, Kim Labalou Abba, a appelé les professionnels du droit à s'impliquer dans la lutte contre le financement du terrorisme. Monsieur Abba a rappelé que le groupe d'action financière identifie les avocats comme de potentielles sentinelles dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. Pour le ministre de la Justice, Malik Sall, la difficulté majeure semble résider dans l'opposition franche entre le caractère général et absolu du secret de l'avocat et les obligations de vigilance déclarative décrites dans les normes GAFI. Le Trésor public de Côte d'Ivoire a été distingué meilleur émetteur obligataire de l'UMOA. La Côte d'Ivoire a mobilisé plus de 4 000 milliards au titre des emprunts obligataires, soit la moitié du montant total des emprunts levés. Le Fonds international de développement agricole demande à ses 177 États membres une contribution de 1,7 milliard de dollars pour 2022 à 2024, soit deux fois plus que la période précédente. Les besoins ont augmenté avec l'aggravation de la faim et les défis liés au climat, a précisé le président du FIDA, Gilbert Ungbo. Les petits agriculteurs sont pleinement touchés par les changements climatiques, tandis que l'essentiel des fonds climat est consacré à ceux qui émettent des gaz à effet de serre, a souligné le responsable onusien.
Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Mihayo nommé sélectionneur des Léopards A.
Oui, la Fédération congolaise de football a annoncé la nomination de l'entraîneur du tout-puissant Mazembe à la tête des Léopards A prime. Pamphile Mihayo Kazembe conduira l'équipe au prochain championnat d'Afrique des Nations prévu en avril au Cameroun. Il remplace à ce poste Christian Nzengi Biembe qui a dirigé la sélection durant la campagne des éliminatoires. Pamphile Mihayo, on le rappelle, a été assistant du Florent Ibengué avec les A.
Emmanuel Adebayor s'engage avec un club paraguayen.
L'Olympia, quadruple champion en titre du Paraguay, a annoncé la signature de l'attaquant togolais. Bonjour à tous les fans de l'Olympia, merci pour tout. On se voit vendredi, a lancé Emmanuel Adebayor dans un message enregistré par le club. À 36 ans, l'ancien joueur du Real Madrid et de Manchester City évoluera aux côtés de son ex-coéquipier à Manchester City, l'attaquant paraguayen Rocky Santa Cruz, meilleur buteur de la saison 2019 au Paraguay. Le Togolais, formé au FC Metz, finaliste de la Ligue des Champions 2004 avec Monaco, était sans club depuis décembre 2019 et la résiliation de son contrat avec le club turc de Kayseri Spor.
Paul-Georges Tepp a résilié son contrat avec Wolfsburg.
Oui, l'ailier international camerounais a résilié son contrat avec le club allemand, lui qui avait été prêté à Kayseri Spor l'été dernier avant de faire son retour à Wolfsburg depuis décembre, prêté à Saint-Étienne en deuxième partie de saison dernière. Paul-Georges Tepp ne s'y est pas vraiment relancé, pas plus qu'en Turquie où son aventure du côté de Kayseri n'a duré que 3 mois, la faute aux problèmes financiers du club turc. Il était arrivé en Bundesliga en janvier 2017 contre 5 millions d'euros versés à Rennes. Le natif de Douala n'y a disputé que 19 rencontres.
Un entraîneur de foot interpellé au Sénégal pour abus présumés sur des mineurs.
Oui, un membre de l'encadrement du club de foot professionnel de l'AS Dakar Sacré-Cœur a été relevé de ses fonctions et interpellé par la police après la dénonciation d'abus sexuels présumés sur des mineurs du centre de formation. Dakar Sacré-Cœur indique sur son site avoir dû mettre un terme avec effet immédiat à sa collaboration avec celui qu'il présente comme un volontaire du club, arrivé en 2019 pour des gestes inappropriés sur plusieurs joueurs du centre de formation. Il ne précise pas la nature des faits, mais évoque au moins 6 victimes. La presse sénégalaise présente le coach comme un ressortissant français. On parle de basketball pour finir avec vous, Idrissa. Les résultats de la nuit dernière en NBA.
Philadelphie et les Clippers 110 à 103. La Nouvelle-Orléans et Portland, tenez-vous bien, 138 à 117. Le nouveau phénomène de la NBA, Zion Williamson, a eu 31 points, 9 rebonds et 5 passes décisives pour les Pelicans. Houston et Boston 116 à 105, San Antonio et Oklahoma City 114 à 106, Washington et Chicago 126 à 114.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Maurice Kamto, président du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, est à Washington. Cette visite de l'opposant camerounais se situe dans le cadre d'une tournée européenne et nord-américaine. Dans une interview accordée à VOA Afrique, Maurice Kamto a tenu à expliquer les raisons pour lesquelles son parti a boycotté les élections législatives et municipales de dimanche dernier. Au micro de John Lyndon, le professeur Maurice Kamto, qui commence par les raisons de sa tournée.
Je suis aux États-Unis comme hier en France puis au Canada pour deux raisons majeures. La première était de venir à la rencontre de la diaspora camerounaise, d'abord pour la remercier pour le soutien qu'elle nous a apporté pendant l'élection présidentielle 2018, mais plus encore pour la mobilisation exceptionnelle qu'elle a faite à la suite de notre détention. La deuxième, c'est de la sensibiliser, cette diaspora, et chaque fois que c'est possible, les autorités du pays d'accueil sur la situation actuelle au Cameroun, qui est une situation extrêmement préoccupante. Du point de vue de la situation humanitaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et du point de vue de la crise politique qui sévit dans le pays depuis l'élection présidentielle 2018.
Vous avez boycotté les dernières élections législatives et municipales qui viennent d'avoir lieu au Cameroun. Comment comptez-vous avoir un rôle actif et réel dans le paysage politique camerounais si vous n'êtes pas représenté au niveau local et législatif?
D'abord, je dois dire que notre parti, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, a pris part aux élections législatives et municipales de 2013. Nous n'avions alors que 7 mois d'existence. Et nous avons gagné quelques sièges dans différents conseils municipaux. Nous avons gagné officiellement le siège d'un député à l'Assemblée nationale. Nous avions gagné davantage que ça, notamment à Yaoundé, mais on ne nous a pas adjugé notre victoire. Pourquoi est-ce que je fais ce rappel? Simplement pour dire qu'il ne suffit pas d'avoir quelques sièges et ou même de diriger quelques municipalités. Il ne suffit pas d'avoir quelques sièges à la représentation nationale, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, pour avoir une quelconque influence, un impact sur la marche des affaires dans mon pays. C'est fort de cela, et en prenant en compte la situation actuelle dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, que le Conseil national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun s'est réuni pour examiner la question et a pris la décision de ne pas prendre part à ces élections. Deux raisons donc. D'une part, la crise qui est une crise fratricide où les Camerounais tirent sur les Camerounais dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et d'autre part, le refus systématique du gouvernement depuis 2013 de réviser le code électoral.
Sauf que votre décision de ne pas aller à ces élections est intervenue carrément à la dernière minute. Vous avez brisé certains espoirs. Non?
Très certainement, il y avait parmi nos camarades ceux qui étaient attachés à la participation à ces élections. Et c'est légitime, je ne leur en veux pas, c'est tout à fait normal. Mais comme nous n'avons cessé de le rappeler, les intérêts du Cameroun et des Camerounais doivent prédominer sur nos intérêts individuels. Le taux particulièrement faible de participation aux élections du 9 février 2020 est une indication claire que le peuple camerounais nous a entendus et a suivi l'appel au boycott.
Et qu'est-ce que vous répondez au président Biya qui, parlant du boycott, a dit qu'il était l'œuvre des petits partis politiques. Est-ce que vous sentez petits partis politiques et quel commentaire faire de ces propos?
J'allais presque dire comme lui à une autre occasion que je ne commente pas les commentaires, mais ce sont les électeurs camerounais qui lui ont répondu. On sait de quel côté se trouve le petit parti.
Maurice Kamto, président du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun.
Abdourahmandia avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, les élections législatives et municipales se sont tenues le week-end écoulé au Cameroun. Les observateurs parlent d'un fort taux d'abstention et le RDPC au pouvoir devrait maintenir sa majorité au Parlement. Du côté de l'opposition, le MRC de Maurice Kamto, qui avait appelé au boycott, se frotte les mains. Ceci alors que les zones anglophones continuent de subir les effets de la violence qui y sévit depuis 3 ans. Le président Biya a lancé un appel aux jeunes des régions anglophone à déposer les armes. Nous allons discuter de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Nous vous le disions hier, le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a reconnu pour la première fois l'ouverture d'un dialogue avec les chefs djihadistes Iyad Aghali et Amadou Koufa et confirme ainsi une information qui courait depuis des mois. Comment cette annonce a-t-elle été accueillie au Mali? Pour une réaction, Bagassi Koura a joint l'analyste politique proche de l'opposition, Nuhun Togo.
La réaction du président de la République, il y a seulement une semaine, le ministre des Affaires étrangères malien se vient dans les statuts pour dire qu'il n'y a pas de négociation, ce n'était pas la logique du gouvernement d'aller négocier avec les djihadistes, parce que Diongunda, le vrai représentant du président de la République, a laissé entendre qu'il y a des pourparlers en vue et se vient statuts pour dire que ce n'est pas vrai. Alors, donc, si le président confirme la négociation, pour nous, ça montre l'amateurisme au sein de la gestion du gouvernement, parce que ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas une cohésion au sein du gouvernement pour une volonté de trouver la solution pour le peuple malien. Et aujourd'hui, la situation est très difficile. Il faut aller en avant de tous ceux qui ont pillé ce pays, tous ceux qui ont saccagé ce pays, tous ceux qui ont tué les Maliens dans les réponses devant une justice. Mais accepter d'aller négocier avec Koufa, aller négocier avec aujourd'hui Iyad Aghali, qu'est-ce que nous allons négocier avec eux pour aller dans l'application de la Sharia ou accepter donc de renoncer à l'intégrité d'une partie du territoire national? Sinon, qu'est-ce qu'il y a à négocier? Nous restons toujours à l'écoute, nous verrons concrètement la promesse d'une négociation.
Est-ce qu'il fallait le reconnaître publiquement?
Je suis d'accord avec vous. Les États-Unis négocient donc avec les talibans, d'autres, mais jamais on voit un président des États-Unis ou un président français sortir pour négocier. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'a pu faire le président de la République, notre président de la République, à sortir devant la face du monde.
Après plusieurs années d'absence, l'armée malienne est finalement en route pour Kidal. Comment vous appréciez cela?
Une armée décomposée, une armée divisée par trois. Le Mali prend une partie, la Suma prend une autre, et le Gatsa prend une autre. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le programme est très clair. Précisément, le 25 février, il y aura d'autres armées, la mission qui va aller sur Gao. Ils vont envoyer une armée récomposée à Gao. Et le 25 mars, ils vont envoyer une armée récomposée à Tombouctou. Le 25 mars, on va envoyer une armée récomposée à Miraka. Ça veut dire quoi? L'armée récomposée, par exemple, il y a 300 et quelques envoyés. Le Mali a donné 100 et quelques. La Soma a donné 100 et quelques. Le Kassi a donné 100 et quelques. Donc, dans ces conditions, finalement, quel type d'armée nous avons? Comment ça sera commandé? Et ça sera géré par les responsables, tout ce qui a été nommé par le gouvernement avec la complicité, parce qu'à un moment donné, Kidal a été donné à la SEMA, Menaka a été donné au Kacha et Tomoki a été donné au NAA. Finalement, nous voyons que la situation devient plus en plus très compliquée pour nous. Il est bon de renforcer, de travailler pour rééquiper notre armée, pour donner la force à l'armée. On ne va pas accepter le principe, c'est une imposition aujourd'hui de la soi-disant communauté internationale pour demander d'appliquer l'accord. Si c'est comme ça qu'on applique l'accord, on accepte d'aller rapidement vers l'autonomie que nous n'avons jamais suivi dans la même vie.
Joint à Bamako, Nuhun Togo, analyste politique proche de l'opposition.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Les nouvelles autorités soudanaises ont fait part de leur intention de remettre à la Cour pénale internationale l'ancien président Omar el-Béchir et trois de ses collaborateurs accusés de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour. L'annonce en a été faite mardi dans un communiqué par Mohamed al-Taïchi, membre du Conseil souverain soudanais au pouvoir à Khartoum. Timothée Donangmaï a recueilli la réaction d'Olivier Berko, professeur des droits humains à l'Université de San Francisco.
Si effectivement l'annonce est suivie des faits, c'est une portée historique très importante, puisque c'est vraiment une progression pour le droit international pénal et ce sera un soulagement énorme pour les victimes qui attendent justice depuis 15 ans. Et la plupart de ces individus, comme el-Béchir, ont été inculpés des crimes les plus graves, notamment du crime de génocide, et que ça fait plus de 15 ans qu'on attend que ces personnes soient enfin déférées à la Cour pénale internationale et soient jugées. Et donc c'est une avancée historique pour le droit international criminel.
Est-ce que vous voyez quelques obstacles dans la voie de cette procédure?
Oui, parce que le nouveau gouvernement à Khartoum n'est pas complètement installé et ça fait partie des négociations avec les partenaires au Darfour. Pour qu'arrive à une paix définitive au Darfour, c'est une des négociations qui ont été mises en avant, c'est que Béchir soit envoyé à la Cour pénale internationale. Mais ça fait partie encore des négociations, donc rien n'est fait. Mais je pense que les victimes sont vraiment derrière et et attendre que cette décision soit effective.
Quelle est la situation aujourd'hui dans le Darfour?
C'est une situation qui s'est détériorée ces dernières années, où finalement les personnes qui ont été déplacées ne sont pas retournées dans les villages où elles habitaient, les réfugiés ne sont pas rentrés au Darfour, il y a toujours des violences sporadiques, et avant l'ancien gouvernement aussi conduisait des actions criminelles de toujours, une situation assez confuse sur place. Donc, je pense qu'il faut un sérieux plan de paix pour qu'on arrive à une paix durable et qu'enfin les victimes et les déplacés et les réfugiés puissent rentrer chez elles.
Et comment voyez-vous les négociations intersoudanaises de Djouba au Soudan du Sud entre le gouvernement de Khartoum et les rebelles du Darfour?
Là, c'est plus compliqué parce qu'il y a on est dans une situation de guerre civile larvée au sud du Soudan et là, on est dans une incertitude totale en fait. C'est beaucoup plus encourageant au Darfour.
Olivier Berco, professeur des droits humains à l'Université de San Francisco.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
On parle maintenant d'un phénomène de société qui prend de l'ampleur. Les Africains sont de plus en plus nombreux à faire le choix de rentrer sur leur continent d'origine après une longue période passée en Occident. On les appelle les repates ou repatriés, un néologisme construit sur le modèle du mot expat, désignant donc ceux qui reviennent vivre en Afrique après avoir travaillé ou étudié à l'étranger. Reportage à Dakar d'Alison et Alexis Lekogo.
Après plus de 20 ans passés en France, Fadialo a décidé de rentrer vivre dans son pays d'origine, le Sénégal, en 2016. Une année plus tard, elle crée l'Institut académique des bébés, une structure dédiée à la formation professionnelle des métiers de l'enfance. Aujourd'hui, les apprentis nounous découvrent comment cuisiner des purées plats pour bébés à base d'aliments bio.
J'ai voulu répondre à deux problématiques ici en créant l'IAB. La première, c'est une bonne prise en charge des tout-petits qui est complètement défaillante dans notre pays malheureusement. En plus, beaucoup de femmes aujourd'hui sont au chômage faute de formation adéquate pour pouvoir travailler.
Contribuer à l'essor du continent, c'est aussi l'une des raisons qui ont poussé Djibril Fall à revenir s'installer en Afrique après plus de 2 décennies passées en Europe, principalement en Suisse. Il est le fondateur d'une ONG spécialisée dans la protection des enfants migrants.
Participer à l'Afrique, c'est une sorte de retour tout simplement d'investissement. L'Afrique a investi sur moi énormément, et le Sénégal sûrement aussi, mais cette ressource-là que je suis devenu, quel que soit son niveau, devrait pouvoir après donner quelque chose à cette Afrique-là.
Chaque mois, plusieurs dizaines de repates se réunissent lors d'un after-work. Awali en est l'initiatrice. Rentrée au Sénégal il y a 3 ans et demi, elle a fondé un club destiné à favoriser la réinsertion de ces Africains qui ont longtemps vécu à l'étranger.
Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un espace d'échange pour les gens comme moi qui venaient ou revenaient des États-Unis ou d'Europe. Venir ici concrètement réaliser, ou en tout cas essayer de réaliser l'Afrique de leur rêve de près, enfin sur place, hein, plutôt que de la rêver passivement de loin. Et donc j'ai mis la main à la poche, j'ai retroussé les manches et j'ai lancé ce club.
Difficile de mesurer l'ampleur de ce retour des cerveaux. L'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, ne dispose pas encore de chiffres, mais reconnaît le phénomène et l'encourage même à travers différents programmes.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h tout universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout, comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live VO Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633 ou 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seboudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.